Les meilleurs d'entre nous, en compétences et en vertu, occuperont les stations de responsabilité.
C'est l'histoire d'une tragédie grecque. Le fils prodige promis au plus grand avenir et à qui le destin joue pourtant des tours. À l'aube des années 2000, Idriss Seck avait tout pour lui. Le talent, la compétence, le charisme, les éloges, l'expérience du pouvoir dont il a été le cœur. Et puis, patatras, des embûches dressées arbitrairement par la vie politique sénégalaise et des choix personnels contestables l'éloignent du pouvoir. Deux échecs en 2007 et en 2012 s'en suivent, mais la désaffection dans l'opinion ne l'a pas totalement disqualifié, car le voilà candidat en 2019 avec une plus grande armature, une coalition inédite et une vision déclinée en 152 pages. Le sursaut de l'héritier du Kayor sera-t-il victorieux ? C'est un fidèle parmi les fidèles, Abdourahmane Diouf, toujours en première ligne, que nous invitons dans Confluence. Idrissa Seck, la dernière chance, c'est le titre du quatrième et dernier hors-série consacré à l'élection présidentielle sénégalaise. Bonsoir.
Confluence. Avec Elgas.
Oui, bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Cénéplus. Ravi de vous retrouver pour le dernier chapitre de notre grand angle consacré à l'élection présidentielle sénégalaise. Débat, comme toujours, analyse, exploration en plateau des projets et des styles des candidats en compagnie des confluents du soir. Une nouvelle venue, faite de chair et de cheveux, journaliste, culture et politique à France 24, Fatimata Wansanya. Fatimata, bonsoir.
Bonsoir Elgas.
Bienvenue dans l'équipe.
Merci.
Elle pousse les invités dans leurs cordes, mais toujours avec cordialité. Aminata Tchor, journaliste, fondatrice de Cet Alma. Aminata, bonsoir.
Bonsoir Elgas.
Et le sage qui n'est jamais à l'abri d'une éruption ou d'une fulgurance, c'est Lamine Faye, poète et ingénieur. Mon cher Lamine, bonsoir.
Bonsoir Elgas.
Au sommaire ce soir, Idrissa Seck est-il un homme neuf ? Que retenir de son ambitieux projet décliné en plusieurs langues nationales comme innovation majeure ? Nous soumettons cette vision à l'examen en trois points. Ensuite, quelle envergure internationale de ce projet ? Que pense le candidat ? Des questions de diplomatie, de souveraineté et des périls sous-régionaux. Fatimata, vous mènerez la discussion. Et pour finir, le style de l'homme, sa trajectoire, sa politique. Le vieux Idi est-il en conflit avec le nouveau ? Aminata, vous nous aiderez à éclairer ce point. Deux changements ensuite dans vos rubriques habituelles. À la place de la revue de presse, discussion sur l'autre phénomène de cette élection, Issa Sall. Quelle lecture faire de ce profil atypique, de ce parcours loin des standards ? Discussion en plateau. Et en guise de guillotine, l'appréciation de la candidature de Madi Kenyan. Voici pour l'affiche de votre émission.
Confluence.
Je me tourne maintenant vers notre invité. C'est un docteur en droit et en économie, consultant international et surtout porte-parole du candidat Idrissa Seck. Abdourahmane Diouf, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, une question inhabituelle peut-être pour commencer. Quand a commencé votre compagnonnage politique avec Idrissa Seck et qu'est-ce qui vous a séduit et convaincu chez lui ?
Alors, ça a commencé dans le deuxième semestre de l'année 2011, alors qu'on préparait l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal. Moi, je réside encore à Genève. J'y étais hier d'ailleurs, je suis revenu hier soir seulement pour pouvoir continuer ma campagne et être avec vous pour cette émission.
Oui.
Alors moi, j'étais consultant, je vis au Sénégal, je fais une émission à la télé comme consultant expert international.
Oui.
Il m'a repéré et il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Il est venu spécialement à Genève me rendre visite, me parler de son projet de société et me proposer d'être son porte-parole. Donc depuis septembre 2011, je suis son porte-parole. J'ai fait ce travail avec lui pour l'élection présidentielle de 2012, pour les résultats que vous savez. Après, l'intellectuel, entre guillemets, que je suis, s'est promis de continuer à travailler avec lui pour l'aider à réaliser son projet de société au Sénégal.
Oui.
J'ai intégré le parti Réumi. Il m'a proposé à l'époque, alors qu'on était encore avec Macky Sall dans la coalition Benno Bokyakar, comme directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal. Ça n'a pas fait long feu. Et depuis lors, je continue parce que je suis convaincu qu'il a la meilleure vision pour le Sénégal. Je l'accompagne dans la limite de mes moyens et je considère que le Sénégal aurait énormément de chance de pouvoir appliquer sa vision et d'en faire un pays vraiment émergent. Pas émergent au sens du président Macky Sall, mais un pays émergent avec beaucoup moins de pauvreté, beaucoup plus de richesse.
On vous voit d'ailleurs en première ligne avec d'autres cadres du parti Réumi. Idriss Seck serait, alors je cite, dans une stratégie dite du silence ou de l'effacement. Est-ce une promotion, selon vous, des vertus d'équipe ou y a-t-il un objectif véritablement caché derrière cette discrétion?
C'est ce que nous appelons chez nous le leadership éclaté. Pour ceux qui observent la vie politique sénégalaise, nous sommes l'un des rares partis politiques, pour ne pas dire le seul, qui a la capacité de se mouvoir, de commenter l'actualité politique, de développer des stratégies et de les décliner sans la présence du leader. Vous savez, chez nous, en Afrique, d'habitude, les gens aiment les leaders omnipotents, omniscients, omniprésents. Chez nous, il a considéré qu'il avait avec lui des gens qui ont des compétences, qui ont du talent, qui ont une vision, et il a choisi de les mettre en avant. C'est pour ça que vous voyez toujours en première ligne des cadres qui ont la capacité de mettre en œuvre sa vision. Et cela s'est ressenti aussi lors de cette dernière ligne droite pour l'élection présidentielle, effectivement avec cette stratégie du silence, mais un silence bruissant de paroles, comme on dit.
Oui.
Vous avez vu, moi-même, j'ai eu l'opportunité et le privilège en tant que porte-parole de présenter sa vision programmatique le 3 janvier dernier.
Oui, on y
reviendra. Il paraît que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Cela veut dire tout juste qu'il est un leader des temps modernes, qu'il a compris qu'il faut travailler en équipe, que la solution du Messie n'est pas la bonne solution pour le Sénégal, et surtout, qu'il a une équipe prête à gouverner. Parce que nous avons l'habitude dans notre pays et dans d'autres pays africains d'avoir des présidents qui arrivent au pouvoir sans une bonne préparation et sans une équipe capable de mettre en œuvre les projets de société. Voilà. Donc de ce point de vue, il est prêt, nous sommes prêts, et nous espérons que les Sénégalais seront prêts dans une semaine.
Alors, l'équipe de chroniqueurs est aussi prête hein, pour aller au fond de ces sujets et poser des questions pour savoir quelle est l'innovation majeure. Mais avant d'attaquer le programme, des repères d'abord. Jalons sur une trajectoire de l'homme qui propose une renaissance. Ma chère Aminata, vous avez ouvert le tiroir des archives. Qu'est-ce qu'on y trouve?
Des choses, Elgas, des choses. Disons qu'entre 1988 et 2004, Idriss Seck a eu sa période de gloire. Directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade au présidentiel de 1988, ministre du commerce, de l'artisanat et de l'industrialisation pardon, en 1995, ministre d'État et directeur de cabinet de Wade en 2000, et enfin, Premier ministre du Sénégal en 2002. Et donc, pendant 6 ans, Idriss Seck est présenté comme le fils, voire même le successeur de Maître Abdoulaye Wade, à la fois et à la tête du Parti démocratique sénégalais, mais aussi à la tête du pays.
Oui.
Mais le destin en a décidé autrement.
Oui, car les ennuis sur cette ambition, d'ailleurs, qu'on lui reproche, commencent dès 2004.
Oui, 2004 marqua le début de la disgrâce d'Idriss Seck. Il entre en conflit avec Maître Wade lorsque ce dernier le soupçonne de vouloir écarter son fils, Karim Wade. Mais surtout, Idriss Seck est accusé d'avoir détourné 44 milliards de francs CFA dans le cadre de l'affaire dite des chantiers de caisse, ville dont il était encore le maire à l'époque.
Oui, la machine se grippe et la grippe devient beaucoup plus aiguë même. Il passe en prison en 2005.
Et oui, 2005, il est arrêté, il est mis en prison pour détournement de fonds dans les chantiers de caisse, pour corruption, faux et usage de faux, attente à la défense nationale et la sûreté de l'État.
Et 2006, ce coup de théâtre, il sort de prison.
Et 2006, il bénéficie d'un non-lieu et retrouve la liberté. Nous sommes le 7 février 2006 et 3 mois plus tard, Idriss Seck crée son parti politique Réumi.
Et l'ambition mue quasiment en défiance avec les élections de 2007.
Et oui, il se présente pour la première fois aux élections présidentielles contre le mentor, le papa, Maître Abdoulaye Wade. Et derrière Idriss Seck se forme une coalition. Il s'en sort assez bien et arrive deuxième au scrutin avec 14% des voix.
Et arrive donc 2009, coup de théâtre, retrouvailles avec son bourreau.
On n'en parle pas souvent de cette année, mais 2009 marque l'année des retrouvailles entre le patriarche Maître Abdoulaye Wade et Idriss Seck. Ce dernier réintègre le Parti démocratique sénégalais. Mais ce deuxième mariage avec le PDS ne tiendra pas. Monsieur Seck dénonce l'irrecevabilité de la candidature de Wade pour les élections de 2019 et sera, encore une fois, exclu du PDS pour sa position sur ce sujet-là.
2012, présentation et échec cuisant.
Eh oui, 2012, la chute libre continue. Il retente sa chance une deuxième fois aux élections présidentielles. Mais cette fois-ci, les résultats sont catastrophiques avec 7% des voix.
Aïe !
Bah oui, il paye cher ses allers-retours au PDS, ses nombreux conflits avec le président Wade, et il perd aussi des cadres dans son parti. Alors, bah, il rejoint la coalition Beno Bokeyakar pour soutenir le candidat Macky Sall, devenu par la suite président de la République. Et depuis, depuis Mara, comme le surnomment certains Sénégalais, est l'un des leaders de l'opposition sénégalaise.
Voilà, 2019, peut-être la dernière chance.
Et 2019, Elgas rebolote. Idrissa Seck brigue les présidentielles pour la troisième fois successive. Et il y va avec une coalition composée de ténors dans le paysage politique sénégalais. Mais cela suffira-t-il pour mettre fin à ces écueils, à l'accession au pouvoir et être le cinquième président de la République du Sénégal, mon cher Elgas ? Ça, les Sénégalais ont la réponse à cette question et verdict dans une semaine.
Merci beaucoup, Aminata. Tchor, alors destin de tragédien, comme on l'a vu. On va ouvrir ici maintenant le premier grand chapitre sur le cœur du projet d'Idrissa Seck. C'est 152 pages. La grande pauvreté a été au cœur des préoccupations du candidat qui dit avoir sillonné le pays et vu la misère se déployer. À Lynx maintenant. Dans ce programme, que propose pour changer radicalement la donne, le projet ? Quelle est la vision structurante de ce projet ?
Je me suis focalisé sur certains points, notamment les points économiques, et j'ai l'impression, peut-être sur la vision structurante, que le programme est peut-être trop vaste et paradoxalement, par sa longueur, pas assez précis. C'est-à-dire que c'était vraiment le programme qui était censé peut-être être le plus précis, mais en sillonnant justement les engagements pris par le candidat, je n'ai pas trouvé les moyens de les mettre en œuvre, à part sur les dernières pages dans le cadrage économique dont on va parler. Monsieur Diouf, vous soutenez, et à votre honneur, que c'est une équipe qui est à l'origine justement de la conception de ce programme. Est-ce que vous ne craignez pas justement que par le caractère vague des engagements pris et par le caractère vague des moyens mis en œuvre, est-ce que vous ne craignez pas justement que ce programme-là ne soit pas assez précis ?
Je ne suis pas d'accord avec le diagnostic sur le manque de précision du programme. Nous n'allons pas nous évaluer nous-mêmes, mais les experts avec qui nous avons travaillé, ceux qui sont en train de se prononcer de façon technique sur le programme, sont en train de dire que c'est l'un des programmes où il y a le plus d'engagements précis de la part du candidat. Il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'il y a un programme d'un candidat qui a été chiffré. C'est la dernière partie dont vous parlez, qui concerne le cadrage économique, où nous disons en deux tableaux quelle est la valeur financière des engagements pris par le candidat Idrissa Seck. Où est-ce que nous allons trouver l'argent ?
C'est peut-être juste pour préciser votre propos, c'est effectivement la première année où il y a deux engagements qui sont chiffrés, celui de Ousmane Sonko et le vôtre peut-être.
Exactement. Et puisque nous avons eu le privilège de proposer notre programme avant celui d'Ousmane Sonko, l'histoire retiendra que Idrissa Seck a été le premier Sénégalais à avoir proposé un programme chiffré. Nous y tenons.
Pas en détail, par contre. Justement, nous en reviendrons sur la partie internationale qui m'intéresse, mais je tiens à vous dire qu'il y a quand même quelques flottements, mais on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez bien.
On en reparlera tout à l'heure avec plaisir. Je suis juste en train de vous préciser qu'on a mis sur 3 à 4 pages le cadrage économique général. En deux tableaux, nous avons parlé des ressources financières. Mais pour chaque thématique, nos experts ont un cadrage économique précis.
Oui.
Mais il serait assez fastidieux de le mettre dans un programme qu'on juge déjà long. Parce que c'est déjà le programme le plus long de tous les autres. Donc nous n'avons pas jugé utile de mettre tous les chiffres par rapport aux 45 thèmes. Nous avons juste jugé utile de mettre en place le cadrage économique
justement,
en gardant par devant nous tous les chiffres qui soutiennent le programme.
Justement, une autre question, concentrons-nous justement sur la précision d'un point, parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail sur tous les points. Sur le cadrage économique de l'agriculture, j'ai dénoté le soutien au monde rural, le programme triennal, les deux fonds spécifiques pour le financement du monde rural et 1 200 milliards pour aménager et équiper 120 000 petites fermes. qui s'autofinancerait plutôt. Mais par contre, dans le cadrage économique annuel et quinquennal, je n'ai vu en termes de ressources que 1049 milliards. Donc, les ressources qui seront allouées dans le cadrage économique, donc dans les deux tableaux en bas du programme, sont, si on agrège sur le quinquennat, sont de 1049 milliards. Mais par contre, quand j'ai énuméré les engagements pris sur le quinquennat par Idrissa Seck, ça s'élève à 1200 milliards, plus deux fonds d'investissement qui ne sont pas chiffrés, plus un programme triennal, plus un soutien au monde rural. Donc, qui s'élèverait aux alentours de 2000 milliards.
C'est très technique, mais à vous, Abdourahmane Diouf.
Alors, je répète, hein, parce que la répétition est pédagogique. Sur le programme, nous avons des engagements globaux qui tournent autour de 3 000 milliards. Oui. Et nous avons dit où est-ce que nous allons prendre l'argent. C'est très clair dans les tableaux. Malheureusement, on n'est pas à la télé, on ne peut pas vous montrer tout ça.
C'est vrai.
Ce que nous avons dit sur l'agriculture est très précis et nous l'avons dit de façon symbolique. En partant d'un chiffre qui a été utilisé par le président Macky Sall pour faire son train express régional.
Exactement. Oui.
1 200 milliards. Nous avons essayé de faire une transposition en disant que ces 1 200 milliards peuvent être utilisés dans le domaine de l'agriculture.
Exact.
En précisant que c'est un financement purement privé. Vous injectez 1 200 milliards, vous faites 120 000 fermes agricoles, vous créez 500 000 emplois directs et indirects, et vous avez 1 200 milliards de chiffre d'affaires.
Oui.
Donc c'est de l'argent privé qui a été mis dans le terre, qui peut être réinvesti dans le domaine agricole.
Oui.
Donc, c'est un engagement précis du candidat qui est financé par le secteur privé et qui va être réinjecté dans le secteur privé.
Oui.
Donc, cela n'a pas grand-chose à voir avec le cadrage économique où nous disons que les engagements nouveaux, parce que ça, il faut le préciser, on parle des engagements nouveaux du candidat qui n'ont rien à voir avec le budget annuel de 3 000 milliards, qui n'ont rien à voir avec les emprunts, les dons et les autres ressources extra-budgétaires.
Oui.
Alors, donc, le programme se finance de lui-même.
Justement, cher Abdourahmane Diouf, alors, une bonne dose de technicité, c'est très, très important pour nos auditeurs, mais il faut toucher les choses de manière concrète et un peu palpable. Il y a une grande pauvreté au Sénégal. Il se sait que, d'ailleurs, a mentionné l'avoir rencontré au cours de son périple dans les territoires du pays. D'un mot, comment donner de l'emploi aux jeunes Sénégalais pour éviter qu'ils s'en aillent dans les drames que l'on connaît. Est-ce qu'on peut schématiquement sortir des chiffres, donner typiquement une optique générale?
Alors, je vais m'entêter un peu une dernière phrase de réponse parce que je ne voudrais pas qu'on s'arrête sur le fait que nous avons un programme imprécis. Nous devons tous nous estimer heureux d'avoir un candidat qui, pour la première fois, vous présente des chiffres sur lesquels vous pouvez discuter.
Oui.
Donc, le programme n'est pas du tout imprécis, je le précise. Avant de passer à autre chose. Sur l'emploi, si vous lisez le manifeste, nous avons dit que c'est un peu démagogique de reprendre ce qui a été fait au Sénégal à travers des propositions exclusivement centrées sur les jeunes,
oui,
et exclusivement centrées sur les femmes. Nous disons dans le manifeste que les jeunes et les femmes sont partout. Ils sont dans l'agriculture, ils sont dans l'industrie, ils sont dans les arts et industries culturelles, ils sont partout. Donc nous ne développons pas une politique spécifique d'emploi pour les jeunes. Nous développons une politique spécifique d'emploi sur toute la chaîne humaine, de l'emploi des jeunes étudiants aux retraités à la limite. On va y revenir peut-être tout à l'heure.
Oui.
Mais nos propositions fortes, c'est l'exaltation de l'entrepreneuriat et du secteur privé au Sénégal.
Au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Oui.
Comment on fait? Parce qu'on a eu des déclarations d'intention, on a eu des promesses.
Tout à fait.
Mais ce qui doit changer radicalement, c'est quand même l'offre dans sa lisibilité.
Alors, ce qui doit changer fondamentalement, ce ne sont pas que des mots. Nous sommes actuellement avec un régime qui ne soutient pas les petites et moyennes entreprises.
Oui.
Les petites et moyennes entreprises sont surtaxées au Sénégal. Alors que les grandes multinationales qui font les gros bénéfices ne sont pas suffisamment taxées et bénéficient souvent des exonérations.
Oui.
Première étape, nous allons encourager les jeunes dans l'auto-emploi. Le Sénégal n'est pas un pays qui peut offrir de l'emploi rémunéré aux jeunes sur un plateau. Nous allons les amener à l'auto-emploi. Le Sénégalais est par essence, par nature, quelqu'un qui prend des initiatives. Comment? En détaxant complètement. C'est-à-dire que, par exemple, créer une période moratoire.
Oui.
En disant, si vous créez votre petite et moyenne entreprise, nous allons non seulement, en collaboration avec les banques, vous faciliter l'accès au crédit, mais nous allons vous donner le moratoire qui vous évite de payer des impôts pendant une année, deux ans, trois ans.
Vous réinventez, en fait, le travail des jeunes qui sont dans la rue, là. Le secteur informel l'a déjà fait bien avant vous, sans moratoire d'ailleurs.
Non, mais le secteur informel au Sénégal, nous avons décidé de le professionnaliser de façon graduelle. Ce que nous allons apporter de plus, c'est faire en sorte que ce secteur informel soit professionnalisé avant de le formaliser. Parce que l'idée qui consiste à dire qu'on va formaliser le secteur informel, c'est une impasse. Donc, comment nous allons formaliser ce secteur informel? En justement leur permettant de créer des petites et moyennes entreprises. Oui. C'est ça le problème. Vous prenez le secteur... Non, laissez-moi continuer.
Oui, je vous en prie.
Vous prenez le secteur informel au Sénégal. C'est de l'auto-emploi. Mais c'est de l'auto-emploi qui n'est pas en prise réelle avec l'économie. Parce que c'est des secteurs informels qui ne payent pas suffisamment d'impôts. Si vous les professionnalisez, vous les permettez d'avoir une existence légale. Et en leur permettant d'avoir une existence légale, vous les permettez d'entrer dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Et c'est en ce moment-là que vous commencez à défiscaliser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont hors du système. Avec leurs bénéfices paramétrés, ils sont hors du système. Il faut d'abord les convaincre d'être dans le système par la formalisation, par la professionnalisation. Et après, vous pouvez défiscaliser.
Oui.
Donc, mieux vaut leur prendre 1 million, 2 millions que de lécher SAP des milliards. Mais je reviens à l'auto-emploi, parce que vous parlez du secteur informel. Les Sénégalais sont ingénieux. Les Sénégalais savent prendre des initiatives, mais il n'y a jamais eu aucun gouvernement qui les a aidés à formaliser leurs initiatives. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur les petites et moyennes entreprises.
Oui.
Chaque Sénégalais est porteur d'une petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, si vous faites le moratoire sur 1 an, 2 ans, 3 ans de défiscalisation, vous leur permettrez de gagner des marchés. Ça, c'est une autre proposition que nous faisons dans le programme. En faisant en sorte que les références exceptionnelles qu'on demande aux petites et moyennes entreprises pour accéder à la commande publique soient enlevées. Parce que vous créez une entreprise, vous êtes jeune, vous avez 30 ans, vous n'avez jamais travaillé. On vous demande, par exemple, que pour pouvoir gagner le marché, vous devez être dans l'obligation d'avoir déjà exécuté un marché de 4 millions, 5 millions, 10 millions.
C'est une réponse la très, très complète.
La référence, vous ne l'avez pas.
Oui.
Donc, toutes ces petites obligations liées au fait que nos PME ne peuvent pas accéder à la commande publique vont être enlevées. La fiscalisation va être diminuée et on va laisser aux jeunes la possibilité pendant un certain temps de s'épanouir et de créer des emplois.
Merci Abdourahmane Diouf. On va prendre une deuxième question de Lamine Faye sur une vision très très proche, la vision sociale de ce projet.
J'avais deux questions sur ce point. Vous avez parlé justement d'accorder des allègements fiscaux effectivement aux PME et de favoriser une promotion harmonisée et équilibrée du territoire envers les populations vulnérables. Ma première question c'est: qu'est-ce que vous appelez population vulnérable? Comment les qualifiez-vous? Et la deuxième, qui rejoint un peu cette vision sociale, vous avez parlé de décentraliser le financement de la CMU qui a été mise en place par Macky Sall, de le décentraliser sur chaque poste de santé. Est-ce que vous ne craignez pas que qu'en décentralisant ce financement-là, vous créiez un financement ou une couverture maladie à deux vitesses dans des zones où le financement sera optimal et équilibré et dans d'autres zones où le financement sera laissé à l'appréciation des postes de santé?
Non, la difficulté avec la couverture maladie universelle, c'est qu'elle n'est pas universelle. Elle n'est pas présente partout sur le territoire national. Et actuellement, le diagnostic que nous en faisons, c'est que l'État, justement, n'a pas fait une bonne prévision budgétaire, au point qu'aujourd'hui, tous les hôpitaux ont des créances importantes vis-à-vis de l'État et refusent d'exécuter les demandes venant de l'État. Donc, elle n'est pas du tout opérationnelle, quand bien même l'idée, elle est bonne. Nous, sur la politique sociale du président Macky Sall, nous partons de l'idée que la plupart de ses idées sont généreuses, mais qu'elles ne sont pas opérationnelles. C'est pour ça que nous avons choisi de faire un programme chiffré. Donc l'idée de la couverture maladie universelle, elle va rester, mais nous allons trouver des ressources financières, notamment dans les exonérations fiscales faites aux grandes multinationales, les ressources qui nous permettent de la financer. Donc ce n'est pas une remise en cause fondamentale. L'idée de décentralisation dont vous parlez, c'est pour éviter le désert médical.
Oui.
Le diagnostic que nous faisons sur la santé au Sénégal, c'est que quand vous êtes à Dakar, vous avez accès à la santé, plus ou moins, c'est à relativiser, mais plus vous allez au profondeur du pays, vous ne trouvez même pas un certain nombre de spécialisations dans les hôpitaux.
Exactement, mais décentralisant ce financement-là dans des postes de santé qui n'ont même pas peut-être des moyens pour assurer les premiers soins à leurs patients, est-ce que vous ne rajoutez pas déjà une charge supplémentaire à ces postes de santé? Est-ce que vous n'avez pas une couverture maladie qui est plus inefficace, qui serait plus inefficace que la version actuelle?
La version actuelle, c'est la décentralisation qui ne transfère pas les fonds. En fait, le problème avec les hôpitaux et les postes de santé, c'est qu'ils reçoivent des patients envoyés par l'État, mais l'État derrière ne paye pas. C'est pour ça qu'ils sont en difficulté.
Oui.
Donc nous avons un double objectif, de totalement décentraliser pour que dans les coins et recoins du Sénégal, on puisse accéder à la couverture maladie universelle, mais faire en sorte que cette décentralisation soit accompagné d'un transfert de fonds par l'État qui paierait les postes de santé les plus petits partout au Sénégal.
Merci.
Donc ça ne se pose pas en forme de décentralisation.
Merci beaucoup Abdourahman Diouf. Je vous propose de marquer ici une première pause dans Confluence à venir dans l'émission Diplomatie, Souveraineté, Questions internationales, en lien d'ailleurs avec la discussion qu'on a déjà entamée avec l'invité. A tout de suite dans Confluence. Become, is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself, gotta chase my soul, gotta free my mind, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run for my soul. I better go, 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 go. Making sure I go slow. I got to run, 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 run. Run for my soul. I better go, 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 go. Making sure I go slow, slow. Gotta free my mind. Gotta chase my soul. Gotta be myself. Are getting strange. Guess I need a change. But I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, 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 run for my soul. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta run, 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 run for my soul. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta run, 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 run for my soul. I gotta go, go, go.
Confluence avec Elgas.
De retour dans Confluence avec l'équipe Fatimata, Aminata, Lamine Faye, Lynx. Nous ouvrons maintenant un chapitre peu présent dans les débats de cette élection présidentielle sénégalaise. C'est tout simplement le Sénégal dans le monde. Quel poids, quelle politique sous-régionale et internationale à l'heure où l'hydre djihadiste gangrène le Mali et le voisin, le Burkina. Nous allons interroger Abdourahman Diouf sur le volet international du programme. Et c'est à vous, Fatimata, de mener les débats.
Alors, moi, je vais commencer. J'ai l'avantage ou l'apanage, je ne sais pas, de l'âge peut-être, d'avoir vécu d'autres élections présidentielles, donc les deux dernières, hein, d'Idrissa Seck. Donc, j'ai couvert d'ailleurs pour France 24 l'élection de 2012 en particulier. Donc, j'ai en tête le projet d'Idrissa Seck de l'époque. Et grâce à Internet, j'ai pu retrouver quelques éléments qui m'ont assez troublée. Parce qu'à la lecture de ce nouveau document, de ce programme qui est très exhaustif, évidemment, on l'a dit, plus de 150 pages, j'ai eu du mal à détacher le nouveau de l'ancien, je vous le dis clairement. Et je vois des mots qui sont toujours assez vagues, très peu précis, ne vous en déplaise, dans la partie internationale. Donc le Sénégal, dites-vous, a toujours porté une voix significative au niveau régional et continental et mondial, on n'en disconvient pas. Donc vous prenez une continuité de la diplomatie nationale qui est fortement ancrée, vous louez une spécificité sénégalaise sur le modèle de la tolérance et du dialogue, et vous louez les vertus des ressources humaines diplomatiques, évidemment, avec des ambassadeurs et du personnel diplomatique chevronné, avec une utilisation par ailleurs d'une armée vaillante. Donc sur ces trois propositions, il n'y en a qu'une qui retient mon attention, c'est que l'armée, effectivement, est sous pression, l'armée sénégalaise est sous pression sur plein de fronts différents dans le monde. Et les dégradations, vous citez d'entrée de jeu, les dégradations des relations du Sénégal avec les pays immédiats. Abdourahmane Diouf, ma première question, elle est simple. Quels sont ces pays en question? Dites-nous à quoi vous faites référence et comment est-ce que vous comptez mener ça?
Abdourahmane Diouf.
Alors, je ne suis pas d'accord du tout non plus sur le diagnostic, parce que c'est vrai que le Sénégal a une tradition diplomatique très intéressante, mais dans notre diagnostic, nous considérons que le président Macky Sall n'en a pas fait suffisamment assez. En tout cas, qu'il n'a pas su remettre la diplomatie sénégalaise sur les rails au niveau de Senghor, au niveau d'Abdou Diouf et au niveau de Ouad. Donc nous pensons que c'est un domaine pour lequel nous sommes en déclin. Deuxième constat, c'est que vous parlez de beaucoup de questions qui sont très bien compartimentées. Parce que là, quand vous parlez de diplomatie, vous parlez de sécurité, vous parlez de notre positionnement international par rapport au terrorisme, etc. Alors ce sont des chapitres très différents. C'est pour ça, vraiment, je pense, on ne va pas encore une fois s'évaluer nous-mêmes, mais nous avons pu quand même détacher les questions des uns des autres. Les questions diplomatiques. Nous pensons aujourd'hui que le recrutement du personnel diplomatique au Sénégal ne se fait pas dans les règles de l'art. Vous allez partout dans nos ambassades, dans nos consulats, vous allez trouver des représentants de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Vous allez trouver des errements extrêmement importants comme l'envoi de nos troupes au Yémen, qui avait été décidé, qui finalement il y a eu un rétropédalage, oui. Ça n'a pas été fait en concertation avec le peuple, ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Vous voyez que le Sénégal, qui avait l'habitude de placer un certain nombre de ses dignitaires dans les grandes institutions internationales, est totalement en recul. Moi, j'ai fait des études de droit international à Genève. À l'époque, le Sénégal était surreprésenté. Maintenant, le Sénégal ne l'est plus.
Oui, alors on si a vous permettez, lamentablement, si vous permettez, la dégradation présence diplomatique sénégalaise, elle s'est entamée très très largement sous Ouad, et alors que votre candidat était déjà Premier ministre. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose à mettre entièrement au crédit de M. Macky Sall. C'est un aparté, mais je vous laisse continuer.
Je ne le crois pas. Le président Idrissa Seck a été avec Maître Abdoulaye Ouad de 2000 à 2004. C'est 4 ans sur 12 ans, alors que le président Macky Sall lui-même a été avec le président Abdoulaye Ouad 8 ans sur 12 ans. Donc, il a été 8 ans avec le président Abdoulaye Ouad. Maintenant, ça fait 7 ans qu'il est là. Ça veut dire que sur les 18 dernières années, le président Macky Sall a été présent pendant 14 ans à des postes de responsabilité, y compris chef suprême des armées, président de la République du Sénégal.
Absolument, donc, je parlais de responsabilité partagée, moi.
Non, c'est important de répondre à ces questions, parce qu'il ne faudrait pas, à chaque fois qu'il y a un échec, imputer la responsabilité à un Premier ministre qui ne conduit pas la politique de la nation. C'est Macky Sall qui est le président de la République du Sénégal.
Absolument.
Idrissa Seck n'a jamais été dans cette responsabilité.
Absolument.
La diplomatie, ce n'est pas une compétence transférée. Le ministre des Affaires étrangères rend directement compte au président de la République. Donc si on doit faire un bilan, c'est le bilan du président Macky Sall et non le bilan du président Abdoulaye Ouad.
Oui.
Alors, j'ai été étonné que notre proposition phare n'ait pas été relevée. Notre proposition phare pour éviter tous ces errements, c'est d'avoir une commission nationale sur la politique étrangère.
Eh bien, j'en viens justement.
C'est ça qui nous hésite. Par rapport à notre diagnostic, d'éviter d'avoir une république des démocrates et d'avoir dans cette commission tous les talents sénégalais, que ce soit le monde universitaire, le secteur privé, les diplomates classiques, etc., autour d'une commission qui va faire à chaque fois une évaluation ex ante pour permettre, devant chaque situation qui se présente au niveau national, d'élaborer une position qui tienne compte des différents segments de la République et qui soit une proposition pertinente pour le Sénégal. C'est ça
alors,
qui, notre proposition phare qui va révolutionner la diplomatie
bien
sénégalaise.
Bien sûr, oui, alors madame. Ça, moi j'ai vu ça, j'ai vu l'inspiration suisse et sachant que vous êtes là-bas, on comprend d'où vous vient cette inspiration. Par contre, j'ai une question, moi évidemment ça m'a fait tiquer. Une commission nationale sur la politique étrangère, c'est très bien, secteur privé, anciens fonctionnaires internationaux, etc. pour vous aider à définir votre propre ligne éditoriale finalement. La question c'est, quelle est cette politique étrangère? Quelles sont les propres priorités, si vous voulez, d'Idrissa Seck? Parce que déléguer cette idée à une commission ex nihilo créée, c'est très bien, mais quelle est finalement la propre vision de la politique étrangère d'Idrissa Seck? On n'a pas la réponse dans le document.
Mais vous avez la réponse dans la première partie de ce chapitre. Nous disons que notre objectif, c'est d'avoir une diplomatie d'influence bien proportionnée. Tout est dans la phrase. C'est une diplomatie d'influence une sorte de soft power, parce que le Sénégal, c'est quand même un petit pays, c'est 15 millions d'habitants. Vous avez devant vous des mastodontes qui font rien que le Nigeria, qui fait 180 millions officiellement. Vous avez les grands pays comme l'Inde, comme la Chine. Donc, pour exister dans ce monde-là, il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de génie que les Sénégalais ont. Et les Sénégalais, avec Senghor, notamment, avec cette diplomatie d'influence. Nous voulons actuellement transformer. Je vous donne juste un exemple.
Oui.
C'est aussi une proposition que nous avons faite. Vous avez un chef religieux au Sénégal, il s'appelle Baye Niass. Il est de la région de Kaolack.
Oui.
Baye Niass a plus de 50 millions de talibés, en tout cas d'adeptes, qui sont au Nigeria. Donc, plus même que la population sénégalaise.
50 millions.
Nous avons pensé plus.
Est-ce que c'est avéré, même, ça, 50 millions?
Vous, c'est quoi vos sources?
Plus. C'est les sources de ces talibés, de ces adeptes.
Ah ouais, donc très fiable, du
en
coup.
En tout cas.
Indiscutable, en
voilà.
tout cas.
Bon, je ne dirais pas ça. En tout cas, c'est ce que ces adeptes disent. Mais n'allons pas polémiquer sur des petits détails comme ça. Le plus important, c'est que Baye Niass a des adeptes au Nigeria à un nombre plus important que la population du Sénégal réunie. Et le Sénégal n'en fait absolument rien en termes d'influence. Nous considérons que c'est une porte d'entrée. Le Sénégal a Cheikh Amadou Bamba, qui est l'une des personnes qui incarne le mieux l'islam noir, entre guillemets.
Oui.
Beaucoup d'influence un peu partout dans le monde. Et le gouvernement du Sénégal n'a jamais su allier la tradition liée à cette diplomatie religieuse avec les réalités de la diplomatie réelle. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'en étant un tout petit pays, qu'on ait de l'impact au niveau sous-régional. On va en parler tout à l'heure. Moi, je travaille sur les questions et j'ai fait la proposition. Regardez aujourd'hui la question des accords de partenariat économique et les négociations.
On y reviendra. Ce sera le
d'accord.
prochain chapitre. Alors, on va ouvrir ici
voilà.
la discussion.
Mais le but ici pour terminer, c'est que cette commission dont on dit qu'elle vient ex nihilo, ce sera une commission proposée. Le président de la République va garder ses prérogatives. On aura des idées, on va dire, pluridisciplinaires. En sortant de la République, des diplomates qui n'auront pas le monopole de la diplomatie. Et cela nous permettra de chercher un peu partout des niches d'influence du Sénégal dans le domaine économique, dans le domaine religieux, dans le domaine sportif et dans tous les autres domaines. Et je pense que c'est une révolution.
Parce
que le Sénégal n'a pas su faire avec le Yémen, par exemple.
Oui.
Je termine avec ça sur la diplomatie.
Bien sûr.
Le Sénégal est un pays qui n'est pas dans les extrémismes religieux. Le Sénégal est un pays qui a le respect de toute la Oumma islamique. Le Sénégal, dans le cadre d'un conflit comme le Yémen avec l'Afrique du Sud, aurait pu rester dans une situation de neutralité.
L'Arabie Saoudite, peut-être.
Non, le Sénégal ne doit pas prendre position. Parce que le Sénégal doit être le rassembleur de la Oumma islamique. Et le fait de ne l'avoir pas compris a exposé le Sénégal à un certain nombre de difficultés.
On va ouvrir ici la discussion. On va donner la parole à Lamine Faye qui a envie d'intervenir. Et ensuite, peut-être un commentaire d'Aminata Thiaw. Lamine Faye d'abord.
Moi, j'avais juste une question très, très spécifique par rapport au Nigeria, puisque vous en avez parlé. Justement, vous avez parlé de dénoncer les APE, enfin, ce qui viendra peut-être dans une autre partie du débat, en coordination justement avec le Nigeria, qui doit être peut-être le fer de lance de cette dénonciation-là. Mais à côté, sur le volet économique, j'ai vu que sur les industries, vous avez une politique de préférence nationale, c'est-à-dire d'accorder des remises de 50% en tout cas sur toutes les compétitions qui s'ouvrent de manière internationale. Si vous d'un côté favorisez une politique de préférence nationale au détriment de vos partenaires économiques comme de la CEDEAO, donc au détriment d'autres partenaires internationaux comme le Nigeria, comment pouvez-vous sur les accords de partenariat économique construire une politique commune avec ce pays?
Abdourahmane Diouf.
Notre politique de préférence nationale est une politique communautaire. Je pense que ça a été clairement écrit quelque part dans le programme. Parce que toutes nos politiques actuellement sont des politiques régionales. Notre politique commerciale est une politique régionale. Notre politique de concurrence, notre politique agricole, toutes nos politiques sont des politiques régionales adossées à l'UEMOA ou à la CEDEAO. Donc à chaque fois que nous parlons d'une préférence nationale, nous avons en tête le fait que appliquer une préférence nationale stricte serait en contradiction avec les lois communautaires. Donc, il faut extrêmement bien le comprendre. Nous sommes dans une logique régionale. Nous avons dans le programme un chapitre intégration régionale où nous réaffirmons ce principe.
Oui.
Donc, nous, pour toutes les questions économiques, nous sommes dans le cadre d'une solution régionale. Donc, le Nigeria aujourd'hui, qui est en train de nous sauver de l'invasion des produits européens en refusant de signer les accords de partenariat économique, on y reviendra. Et pour nous, un élément important de notre stratégie, de politique communautaire pour pouvoir faire face à l'Europe, aux États-Unis, à la Chine ou à l'Inde. Il n'y a aucune contradiction de ce point de vue. Nous réaffirmons notre appartenance à l'UEMOA, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à la zone de libre-échange continentale, etc.
La précision est entendue. On va maintenant ouvrir le chapitre de la diplomatie un peu religieuse. L'usage de la religion par les DSSEC a été parfois décrié et la cause parfois de la désaffection un peu dans l'opinion. Alors, Fatimata, vous avez des questions très très précises sur ce point.
Absolument. Alors, Abdourahmane Diouf, je vais commencer peut-être par rappeler un tout petit point de détail pour les auditeurs. Il y a plusieurs mois, 8 mois exactement, votre candidat Idrissa Seck a déclenché une polémique en expliquant effectivement que lui avait les moyens, vu ses connaissances religieuses extrêmement poussées, de développer une diplomatie religieuse précise concernant ce qu'il a appelé une querelle de demi-frères en parlant du conflit israélo-palestinien. Donc, vous noterez que nous, ne sommes pas là pour faire l'exégèse du Coran, hein, on vous laisse cette compétence. Par contre, on a une question, alors c'est très très ironique évidemment pour quelqu'un qui n'a pas été capable de s'entendre avec son propre père, hein, ce Ouad en question. Donc, il qualifie le conflit israélo-palestinien de querelle de demi-frères. Est-ce que déjà, vous souscrivez toujours à ces paroles, 8 mois après, ou est-ce que vous les rejetez ou vous les atténuez?
Abdourahmane Diouf.
Cette polémique est derrière nous. Nous avons choisi de ne plus en discuter. Idrissa a une double compétence. Il a une compétence politique. Il est en train de proposer un projet de société au Sénégalais. Il a des compétences religieuses. Quand il a fait cette déclaration, vous êtes peut-être bien placé pour le savoir si vous suivez l'actualité sénégalaise, il y a eu beaucoup de manipulations politiques liées à cette déclaration. Moi-même, en tant que porte-parole, j'avais fait un texte que j'ai intitulé « Tous mes quoi », que vous allez retrouver sur le net,
oui,
qui a consisté à dire qu'on a voulu lui dire un certain nombre de choses qu'il n'avait pas dites. Au jour d'aujourd'hui, Idrissa Seck n'a pas vocation à être l'imam de la grande mosquée du Sénégal, de Dakar ou de Touba. Il a vocation à être président de la République du Sénégal. Jugeons-le sur la base de son projet de société et pas sur son appartenance religieuse ou sur la base de ses analyses religieuses.
Oui.
Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégalais doit avoir une diplomatie d'influence basée sur la neutralité. Le Sénégal doit protéger ses amis. Et le Sénégal a une position classique sur ce conflit qui concerne au respect de la souveraineté des États, mais qui respecte aussi le droit aux Palestiniens d'avoir un État.
Oui.
C'est tout ce que nous pouvons dire sur la question.
Une dernière question, Fatimata.
Alors, donc, une dernière question. Donc, on quitte ce sujet intéressant, mais qu'on invite les auditeurs à creuser eux-mêmes, pour partir sur le franc CFA, qui est devenu une question beaucoup plus politique-économique. Une question toute simple. Est-ce que Idrissa Seck demanderait la sortie du franc CFA, du Sénégal du franc CFA, et pour mettre quoi à la place, tout simplement.
Pour compléter d'ailleurs la sortie qui a été très très commentée hier du président ivoirien Ouattara, qui a encore célébré, on va dire, entre guillemets, les éloges du CFA, qui est la position très très claire d'Idrissa Seck. On a entendu la politique industrielle, hein, mais sur le CFA, l'intégration sous-régionale, vous avez donné quelques indications avec l'UOMOA, mais quelle est votre position précisément?
Alors, notre proposition sur le CFA est très très claire. Nous avons dit que nous constatons un dépérissement, ce que nous appelons un dépérissement du franc CFA. Pour nous, ça ne sert à rien d'entrer dans la polémique du pour ou sur le CFA. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution régionale qui est en train d'être mise en place avec la création de la monnaie unique au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est une fatalité, nous allons vers cette monnaie unique. Idéalement en 2020, peut-être avec du retard une année ou sur 2 années. Donc quand au niveau régional, vous êtes dans ce processus de mise en place d'une monnaie unique de la CEDEAO, il est évident que vous allez sortir du CFA. Donc le CFA va dépérir de lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne sommes pas pour une sortie unilatérale du Sénégal du franc CFA.
Oui.
Nous considérons qu'il y a un certain nombre de risques économiques que notre poids économique et politique ne pourrait pas supporter. Donc la solution serait forcément une solution régionale. Ensuite, nous avons proposé qu'il y ait à la limite la fusion des politiques monétaires CEDEAO et UOMOA. Parce que pour le moment, nous sommes dans la zone UOMOA avec 8 pays, avec une union monétaire, laquelle union monétaire n'existe pas encore au niveau de la CEDEAO.
Mmh.
On a dit qu'il faudrait une certaine convergence pour que les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest puissent se retrouver dans une monnaie unique qui ne serait pas le CFA. J'ai entendu les propositions du président dont vous êtes en train de parler, qui voudrait peut-être qu'on continue avec le CFA qui serait une monnaie régionale. D'abord, je ne crois pas que le Nigeria va accepter cette proposition. Ensuite, nous pensons que tous les défauts liés à l'arrimage à l'euro pourrait être corrigé à travers l'existence d'une monnaie unique CDAO. Il faut chercher le nom. Je rappelle que d'ailleurs, il y a 3 mois, la CDAO elle-même a procédé à un concours, a lancé un concours pour le choix du logo et de la monnaie unique et du nom de la monnaie unique. Oui. Donc, c'est une procédure assez avancée. Donc, nous ne sommes pas vraiment du tout dans la polémique oui ou non pour le CFA, parce que le CFA est en train de dépérir et la procédure qui est en train d'être mise en place va nous amener fatalement vers une monnaie unique. C'est ça notre
en gros, en gros, en gros, vous partagez en fait le même avis que le présidentiel sur le sujet du CFA. Ça, c'est quand même...
Pas.
Ah bah si, parce qu'il propose la même chose.
Non.
Macky Sall propose la même chose, que c'est pas...
Il y a deux ans, le président Macky Sall était président en exercice de la CEDEAO. Il a dit de la main droite que nous sommes en train de travailler pour une monnaie unique de la CEDEAO. 2 jours après, il a dit que le CFA était une bonne monnaie et qu'il ne voyait pas l'opportunité pour le Sénégal d'en sortir.
Bah, il dit qu'il faut préparer la sortie, comme vous êtes en train de dire. Il dit exactement la même chose, qu'il faut préparer la sortie. Ensuite, il faut travailler avec les autres pays pour avoir une monnaie unique. Exactement la même chose que vous voulez dire. Mais du coup, c'est pas grave, hein, monsieur Diouf.
Vous avez le droit de partager les mêmes avis.
Mais c'est pour l'intérêt du Sénégal, l'intérêt de l'Afrique. Donc, il n'y a pas de mal à avoir le même avis.
Nous ne posons pas le débat en termes d'entrée ou de sortie du CFA. Nous pensons que le CFA est en train de dépérir et va mourir de sa belle mort parce que, en termes de souveraineté monétaire, nous avons pris nos responsabilités en main et nous allons avoir une solution régionale.
Oui.
C'est totalement différent de la position du Macky Sall qui va en France ou ailleurs donner des gages sur le franc CFA et venir raconter une autre histoire contradictoire aux Africains quand il était président de la Commission. Oui. Nous ne jouons pas à ce double jeu. Et dans notre programme, nous avons fait le diagnostic de tous les éléments négatifs du franc CFA.
Oui.
Un seul exemple, le fait que ça soit arrimé à l'euro, qui fait que nous sommes très défavorisés en termes d'importation.
Oui.
Et cela ne favorise pas une industrialisation, cela ne favorise pas la transformation de nos produits agricoles.
Oui.
Et rien que l'arrimage au franc CFA pourrait continuer à nous confiner dans une situation de producteurs bruts dans un certain nombre de produits.
C'est très, très
donc,
clair.
Ce n'est pas du tout la même position.
C'est très, très clair votre position sur le CFA. On va enchaîner directement avec le volet de notre focus sur le candidat Idrissa Seck, c'est-à-dire l'homme, le style et son passé. Voilà, sur le chemin d'Idrissa Seck se sont dressés plusieurs obstacles, comme l'a rappelé Aminata Tchor. Il paye des choix personnels, mais aussi des cabales judiciaires orchestrées contre lui. Après la discussion sur la nouveauté, le programme, l'international, on va faire une rétrospective sur l'ancien Idrissa Seck. Rétrospective avec vous, Aminata Tchor.
Qu'est-ce que Idrissa Seck fait en dehors des élections présidentielles au Sénégal? Je pose la question parce que on n'a pas de ces nouvelles à part les élections présidentielles. Il arrive en 2007, il sort de prison, il se présente. Ensuite, on n'a pas eu de ses nouvelles entre 2007 et 2012. En 2012, il arrive, il se présente. Ensuite, il rejoint la coalition Beno Bokhyakar. Il quitte la coalition un an plus tard, donc en 2013. Et entre 2013 et 2019, on n'a pas eu des nouvelles d'Idrissa Seck jusqu'à la préparation des élections présidentielles. En gros, qu'est-ce que fait Idrissa Seck en dehors de ce rendez-vous national?
Abdourahmane Diouf.
En fait, vous tirez un peu trop sur le trait.
Mais non, c'est un constat.
Mais si.
On ne l'entend pas aux élections législatives, encore moins aux élections municipales.
On laisse son lieutenant
répondre. On a ces nouvelles que pendant les élections présidentielles.
Premier élément de réponse, il est un auditeur international. Il fait de la consultance. Et quand on fait de la consultance, je suis bien placé pour le dire parce que je suis moi-même consultant. On ne va pas créer ça sur tous les toits. Et la leçon qu'on va en tirer, et je pense que c'est important pour le Sénégal et pour tous les hommes politiques africains, on n'a pas besoin d'hommes politiques professionnels. On n'a pas besoin de politiciens professionnels qui occupent les médias 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Les rendez-vous électoraux sont des rendez-vous politiques importants. Il les prépare avec son parti. Il n'est pas seul, je l'ai dit tout à l'heure, il est avec une équipe. Et entre deux élections, il n'est pas obligé d'être un politicien professionnel. C'est parce que dans nos pays, la plupart des gens ne font que de la politique. Ils escomptent le revenu de la politique. Ils escomptent d'acheter une voiture et d'avoir une maison de la politique. Et ils ne font que ça. C'est pour ça que vous avez au Sénégal le phénomène de la transhumance. Parce que quand les gens quittent le pouvoir, le principal objectif, c'est de voir comment marchander avec le pouvoir actuel pour retourner au pouvoir. Donc, oui. Entre deux élections, le président Idriss Seck est quelque part dans le monde, il fait son travail pour vivre et pour vivre sa famille.
D'accord.
C'est un élément important.
Le deuxième élément
important, ce n'est pas très exact de dire qu'on ne l'entend que lors des élections présidentielles. Lors des élections législatives dernières, il a joué un rôle extrêmement important. D'ailleurs, le fait que le président Khalifa Sall nous rejoigne actuellement est peut-être une conséquence du travail qu'on a fait.
Mais ça, c'est un grand rendez-vous.
Oui,
venir
justement.
Voir Khalifa Sall oui. en prison, c'est un grand rendez-vous. Bon, vous appuyez juste ce que j'ai dit. Je dis juste qu'il est là pour les grands rendez-vous. Oui.
Qu'est-ce qu'un homme politique responsable doit faire entre deux élections ?
Il doit préparer la présidence. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez écouté l'émission avec Elhaj Ibrahim Kassé. Moukar Sarr lui a posé une question importante. Qu'est-ce que l'opposition fait pendant qu'il n'est pas au pouvoir ? Pourquoi Yomi ne bosse pas pendant qu'il est dans l'opposition pour préparer des sujets pour qu'une fois au pouvoir, ils appliquent.
Là, je vais voler au secours de l'invité. Ils ont fait un projet novateur, 152 pages, je veux dire qu'ils nous présentent.
152 pages, c'est un programme, mais concrètement, enfin, Elgaz, tout à l'heure, vous l'avez poussé, le monsieur Abdourahman Diouf, à donner des éléments concret de réalisation.
Oui, on va laisser l'intéressé répondre lui-même.
Ouais, mais où est-ce qu'on... Moi, j'hallucine là, franchement, j'hallucine.
Ben non.
Où est-ce qu'on a... Non, mais laissez-moi te répondre.
Oui.
Où est-ce qu'on a vu dans le monde une opposition avoir des réalisations ? Moi, j'assume, si vous me suivez, un peu, je l'ai dit tout le temps dans mes interviews, nous assumons le ministère de la parole. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Suisse. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne pouvez pas construire des ponts. Vous ne pouvez pas construire des routes. Vous n'avez pas le
levier étatique pour le faire.
Vous n'avez pas le levier, mais vous n'avez rien. La seule chose que vous pouvez faire, et Idriss Seck l'a très bien fait sur ces trois dernières années, c'est aller à la rencontre des citoyens, recueillir leurs doléances, et sur la base de ces doléances, produire un programme.
On est pressé un peu par le temps. On va y aller. Abdourahman Diouf, on va chuter sur ce point.
Cette question, elle est fondamentale. On ne peut pas demander à une opposition d'avoir des réalisations.
Je suis d'accord.
Je suis
d'accord avec vous. Alors, Aminata, on va enchaîner sur la question des stratégies de campagne.
Pas de réalisation. Je ne vous demande pas de réalisation, mais pousser à ce que des lois soient votées ou bien impulser ou bien commencer certains travaux pour qu'une fois, encore une fois, au pouvoir, vous les réalisez. C'est ce que je dis. Et c'est ce qui se passe partout dans le monde.
Le travail d'opposition classique.
Mais comment ? Le travail de l'opposition classique, nous avons des députés à l'Assemblée nationale.
Et pourquoi Idriss Seck n'a jamais voulu être député ? Pourquoi ? S'il veut vraiment travailler pour le peuple sénégalais, l'Assemblée nationale est un lieu pour travailler pour le peuple sénégalais. Pourquoi Idriss Seck ?
On laisse l'invité répondre, s'il vous plaît.
Mais chacun a son ambition. Moi-même, je n'ai jamais été sur une liste pour être un député. Lui-même, ça ne l'intéresse pas au jour d'aujourd'hui.
D'accord.
Il a choisi le poste de président. Rappelez-vous, il a quand même un parcours.
D'accord.
La discussion est très animée, cher Abdourahman Diouf. On va enchaîner sur une autre question. Je suis vraiment désolé. On a un peu compris l'essentiel. Et puis, je ne pense pas que le désaccord ou la discorde sur ces questions-là soit pour l'instant fondamental. La stratégie, on a vu autour d'Idriss Seck beaucoup de personnalités politiques, de poids, de premier plan. Alors, cette stratégie sera-t-elle victorieuse ? En tout cas, peut-elle porter Idriss Seck pour sa conquête du pouvoir ? Aminata Thior.
Oui, en fait, là, c'est sa troisième élection présidentielle successive. En 2007, donc, il se présente juste après la sortie de prison. On peut dire qu'il avait un peu le statut de martyr.
Oui.
Je sais que M. Diouf ne va pas être d'accord, mais voilà, il avait un peu...
Ne présumez pas de ses réponses.
Ouais, il avait un peu le statut de martyr, ça a un peu joué sur ses résultats assez positifs en 2007. En 2012, on a vu les résultats qu'il a eus. C'était pas fameux. On peut dire même qu'il n'a pas fait une grande campagne et le jeu de yo-yo avec le PDS l'a un peu desservi. Maintenant, ma question, elle est la suivante. On est en 2019. Qu'est-ce que Idriss Seck apporte de neuf dans sa campagne et dans sa vision pour que les Sénégalais lui refassent confiance ? Le mot ou le verbe « refaire » est important. Le mot « confiance » aussi est important. Refaire confiance.
Abdourahman Diouf.
Alors, en 2007, on a eu le résultat qu'on a eu parce que les Sénégalais avaient considéré qu'après Ouad, c'est Idriss Seck. C'était le résultat. C'est l'interprétation qu'on pouvait faire du résultat. En 2012, vous avez parlé du résultat qui n'était pas fameux. Nous sommes d'accord, mais il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est qu'il a été le candidat qui n'a pas fait campagne. Parce qu'il s'est battu sur des principes. Il s'est battu sur le fait Abdoulaye Wade ne devait pas se présenter pour un troisième mandat. Il avait battu campagne sur le fait qu'on ne devait pas avoir droit à un ticket tel que le président Abdoulaye Wade l'a
comme tout commencé. Le monde, comme tout le monde, si comme vous... tous les autres participants. Non, si, si. Non, Macky Sall s'est battu contre Abdoulaye Wade aussi.
Si vous regardez les résultats de l'élection présidentielle de 2012, les résultats des élections de 2012 sont l'exact reflet des dates de démarrage des campagnes. Quand on a eu un pacte dans l'opposition pour que Wade ne soit pas candidat, le président Macky Sall n'a pas respecté ce pacte. Au bout de deux jours, il a rompu le pacte, il est allé en campagne, il est allé au Sénégal des profondeurs, il leur a présenté un projet, il a été deuxième. Mmh. Au bout d'une semaine, le président Moustapha Niass a fait la même chose, il est troisième. Au bout de quelques jours, Tanor Gueye a fait la même chose, il est quatrième. Et parmi les grands candidats, seul Idrissa Seck est resté pendant trois semaines entre la place de l'indépendance et la place de l'obélisque, et ça a donné le résultat que oui. Ça a donné. Qui n'était pas, à notre avis, le reflet de sa popularité au Sénégal.
Oui.
Mais aujourd'hui, les tendances montrent qu'il y a une probabilité, pour rester prudent, oui. Que Idrissa soit au deuxième tour.
C'est entendu.
On ne peut pas être dans cette position, dans une élection aussi importante qu'au Sénégal, et ne pas avoir bénéficié de la confiance des gens. On peut avoir la confiance directe des populations qui votent pour vous. C'est le socle des 15% qui ont voté pour lui en oui. 2012. On peut avoir une confiance dérivée de tous ces premiers ministres, de tous ces présidents d'Assemblée nationale qui sont en train de lui faire confiance.
Merci.
pour mener à bon port le projet. Et je précise
oui.
que le projet que nous sommes en train de présenter au Sénégal a fait l'objet d'une certaine convergence programmatique.
Oui.
Les gens ne nous ont pas ralliés sur la base d'un partage de strapontin, mais ils nous ont rejoints sur la base
sur le cœur du projet. Oui, entendu. Aminata Thior, une toute dernière question.
Oui, rapidement, on va encore convoquer très rapidement le parcours d'Idrissa Seck, l'historique politique. En 2004, il rentre en conflit avec Maître Abdoulaye Wade, puis avec Macky Sall. Ce dernier était ministre de l'Intérieur à l'époque. En 2012, il rejoint la coalition Benno Bokk-Yaakaar et il claque la porte de cette coalition. Un an plus tard, et d'ailleurs vous l'avez suivi à l'époque, vous étiez directeur de la Société Nationale des Eaux du Sénégal et vous avez démissionné de votre poste pour partir avec Idrissa Seck. Quand on voit ça, enfin rapidement, est-ce que ou en quoi la candidature d'Idrissa Seck est rassurante pour être à la tête de l'État? Je veux dire, est-ce que ou est-on à l'abri de conflits une fois à la tête de l'État avec la coalition de ténors qu'il vient de former pour la présidence? Surtout que, si implicitement il a cette image d'un homme de conflit, même si on ne le dit pas, il a cette image d'un homme de conflit, est-ce que c'est rassurant?
Abdourahmane Diouf.
Décidément, moi j'ai été ravi aujourd'hui de discuter avec toutes ces ravissantes dames, mais je ne suis pas d'accord du tout avec le diagnostic que vous faites sur les questions.
C'est le débat démocratique qui le permet.
Voilà, déjà un point important, les conflits qu'Idrissa a eu avec le président Macky Sall, il les a eus alors qu'il était encore dans la coalition. Je rappelle que notre premier point de conflit...
Ah non, le premier conflit avec Macky Sall, c'était en 2004. Ça n'a rien à voir avec la coalition en 2012.
Non, il n'y a pas eu de conflit en 2004. Le président Idrissa Seck était le patron de Macky Sall. C'était son premier ministre. Il a été son patron au niveau des cadres du parti. Il a été son patron au niveau du gouvernement. Il n'y avait pas de conflit. Idrissa a eu un conflit avec... Quand on a été dans la coalition Benno Bokk-Yaakaar, c'est important de le rappeler pour l'histoire.
Bah oui, je suis désolée de vous couper, Abdourahmane Diouf, pour l'histoire. En 2004, Idrissa Seck est rentré en conflit avec Wade. Ensuite, il est rentré en conflit avec Macky Sall parce qu'il disait que c'était Macky Sall à l'origine de son conflit avec Wade. Donc c'est important pour l'histoire,
des éléments de précision, je me permets de m'interposer très très rapidement. Idrissa Seck a été victime d'une cabale d'État qui a été orchestrée par le président de la République, dont il a été d'ailleurs blanchi par la justice. Donc ce n'est pas lui qui rentre en conflit, on rentre en conflit avec lui. C'est quand même important de le rappeler.
Okay.
Voilà. Alors,
pour l'histoire.
Oui, pour l'histoire. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, s'il vous plaît.
Aminata, c'est que quand Macky Sall a été Premier ministre, il a été devant le corps diplomatique pour charger Idrissa. Et ça, c'était un peu plus tard. Voilà. Maintenant, je rappelle pour l'histoire que quand on était dans la coalition Benno Bokk-Yaakaar, on a dit au président Macky Sall qu'il faut respecter les droits de la défense de Karim Wade. Et vous voyez comme l'histoire est en train de nous rattraper.
Oui.
Alors... Je rappelle, parce que tout le monde nous écoute, c'est important, je n'ai pas démissionné de la Société Nationale des Eaux, donc il y a beaucoup de problèmes de diagnostic, ma chère Aminata. J'ai été limogé par le président Macky Sall.
Merci pour la précision de toute manière.
Je vous remercie.
J'ai une toute petite question, réponse courte ou souhaitée. Alors, je m'adresse au consultant que vous êtes. À combien évaluez-vous le pourcentage d'Idriss Seck au premier tour? Voilà, est-ce qu'une victoire de Macky Sall au premier tour est envisageable? Très rapidement.
Et si jamais il n'y a pas de victoire, est-ce que vous ralliez un autre candidat après pour le second tour?
Alors, nous nous engageons à, nous espérons être au deuxième tour, nous nous engageons à soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé. Ça, oui. C'est un. Deux, mathématiquement, statistiquement, socialement, Macky Sall ne peut pas gagner au premier tour. Je l'ai démontré dans plusieurs émissions. Je donne juste un exemple en 10 secondes.
Très rapidement,
oui. Si Wade gagne au premier tour en 2007, il a fallu qu'il fasse des scores exceptionnels dans les partis où il y a une grande démographie. Il a fallu qu'il fasse 80% à Touba Mbaké, là où Macky Sall fait 33%. Il a fallu qu'il fasse 52% à Dakar, là où Macky Sall a 35%. Donc, cumulé sur ces régions où on a énormément d'électeurs, le président Macky Sall a un gap de 64 points qui pourrait lui permettre d'atteindre 50%.
Entendu.
Donc, au jour d'aujourd'hui, ce serait très étonnant qu'il fasse 40%. Sur tous les sondages qu'on a, et ce sont des sondages qui viennent du palais, les résultats donnent Idriss Seck et Macky Sall au deuxième tour. Maintenant, j'ai la prudence. Je sais que dans une élection, il peut y avoir des surprises, que tout est possible. Oui. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est un deuxième tour entre Idriss Seck et Macky Sall.
Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Les discussions ont été animées, très vives, mais toujours courtoises et cordiales. Merci à vous, Abdourahmane Diouf, pour ces réponses détaillées. Véritablement un plaisir d'échanger avec vous. Nous vous libérons et vous nous souhaitons une bonne chance pour ces élections. À venir dans l'émission, Confluence tente d'élargir le spectre des discussions aux autres candidats. Après une petite pause musicale, nous reviendrons pour parler de Madi Kenyan. Mais d'abord, l'autre phénomène politique, c'est Issa Sall. À tout de suite dans Confluence.
Confluence.
Nabanzaki au Kozanga, si ma sonza misato. Nathalie na calendrier, Georgi moins zéro. Moko longue et coquille, n'yana comme yota la montre. Opesa kinyei, n'yani au Kozanga terre. Namaso wa ton avion na motuka, ton dengo nukae. N'yagona si natandie toko na monoko ya topango nangai. Namitandi na koze la yo, opona. Tonto nyonso eya kasi na kiti ya pongi Ba projet na ba promesse topesa na kinga na yo Sote zalaki bilanga batebele likolo ya babanga Iyo tie na motema nanga Balko ya mirangongo na yo Kakuna tutaka tolo luna na lolendo nyesu Lilo na sangwe Sonye lunga kana na lilukate Chapitre nyonso na biblesa la kana verse Ebeleba na kana na bobona Wato na masu wanzela na ngomai Kakebo miboto wezangi doki ndokite Soki mwasu imboto makanga kano kolona ye Iyangunga inamoni bolingo ezaline singa ya pondezo O pepe yambula o e tomela kinga lopango Kasi ye konzo niselanga lisusu bosote ya makasa Iyanze zalaka maladina nzoto ya moto Kasi mokusa na yango zalaka rele ngele ngisoki o kwanzi Pona
Confluence.
De retour dans Confluence avec tous les confluents qui ont repris du poil de la bête après une discussion très très vive avec l'invité Abdourahmane Diouf, toujours avec Fatimata Wan Sanya, Aminata Tchor et Lamine Faye. Alors, la revue de presse internationale que vous devrez retrouver ici change exceptionnellement et cède sa place à une discussion sur le candidat Eladj Issa Sall du PUR, le Parti pour l'Unité et le Rassemblement. Qui est cet homme? Qu'inspire son mouvement sanglé de ses couleurs vertes et blanches? Quelle chance pour cette élection? Discussion en plateau. On commence avec vous, Lynx.
El Hadj Issa Sall, il me rappelle un peu El Hadj Ibrahim Sall
oui.
Lors des dernières élections. Peut-être pas sur le résultat escompté, parce que tout
ce
le monde.
Ce serait terrible pour lui.
Ce serait terrible
pour le premier
et surtout pour nous, je pense, pour les électeurs. Parce que j'ai l'impression justement qu'il reprend un peu la probité et la sobriété, en tout cas, de son prédécesseur El Hadj Ibrahim Sall. Et tout en ayant peut-être le passé, un passé un peu plus glorieux, oui. En tout cas, que lui. Donc, je pense que sur les élections à venir, il a sa chance. Ce sur quoi je suis un peu moins convaincu, c'est sur la maturité de la cible qu'il vise, en tout cas. C'est-à-dire, est-ce que la cible qui était visée par El Hadj Ibrahim Sall n'ayant pas changé, est-ce que cette cible-là pourra changer pour pouvoir voter pour Issa Sall? Je ne lui prédis pas un résultat très, très glorieux, même si je pense que ça va être meilleur que El Hadj Ibrahim Sall.
Alors, Aminata Thior, des liesses dans les banlieues de Dakar, des liesses partout, ouais. Cette couleur, une organisation, un site internet, une efficacité, une présence. Un parti qui existe depuis 21 ans, une université qu'il a créée, tout ça comme base arrière d'un engagement politique. Est-ce qu'il peut être le candidat surprise?
C'est ce que j'allais dire. Bon, je pense qu'il nous réserve des surprises pour cette élection. Et moi, El Hadj Ibrahim Sall ou
El Hadj Issa Sall,
enfin, je le vois d'abord comme un entrepreneur. Et comme tu l'as dit, il a créé l'université du Sahel qui existe depuis 1998 et ça marche toujours. Et quand on voit ses autres collègues du même domaine, Guirassy de l'IAM ou bien Amadou Diaw de l'ISM, bah, Issa Sall est hyper discret.
Oui.
C'est un faiseur, un maker de l'ombre en fait. Et du coup, c'est typiquement le genre de personne à qui on a envie de tendre un dictaphone et lui dire « Racontez-moi tout, dites-moi, qui êtes-vous, quel est votre parcours, quel est ce déclic qui vous a poussé à entrer en politique ? Allez, racontez, dites-nous des choses pour la future génération. »
Oui, mais ce parcours est déjà victorieux. Il a son siège à l'Assemblée nationale et puis il fédère beaucoup de cadres très discrets.
Exactement.
Et d'ailleurs, les projections électorales, quand on regarde ce qui se passe, lui donnent quand même un score qui n'est pas ridicule.
Négligeable, oui, absolument. Et encore une fois, je trouve que dans les analyses, il est un peu absent dans les analyses. On ne le prend pas encore au sérieux. Et franchement, il y aura cette surprise et il nous l'a fait dans les législatives.
Alors, les observateurs sont un peu décontenancés par ce monsieur très débonnaire qui sort un peu de nulle part. Un doux euphémisme, merci pour la précision. Et qui incarnerait une certaine forme de conservatisme républicain.
Oui, alors moi, je me suis attelée plutôt au programme. Hein. Moi, j'aime bien la lettre et le texte. Et en fait, quand je lis son programme sur... Je n'ai pas trouvé de volet international précis, mais il y a un volet paix et sécurité. Donc, c'est à tout venant. Hein. Faire la paix en Casamance, instaurer une surveillance accrue des frontières, revoir les rapports de travail, la collaboration des soldats. Bref, on a l'impression d'instaurer alors un service civique ou militaire pour tous les jeunes à partir de 18 ans. Donc, alors avis aux amateurs, ceux qui peut-être qu'il va rejoindre la proposition d'Idrissa Seck, ceux qui voudront pas aller dans le service informel pourront aller à l'armée. Qui sait ? On ne sait pas que faire de tous ces jeunes de moins de 20 ans qui sont au Sénégal. Donc voilà. Alors moi, je dirais, je vois que certes, il plaît. Certains, moi je suis loin d'être convaincue. Voilà, je mets à son crédit évidemment ses succès universitaires et notamment le succès de l'Université du Sahel en témoigne, mais en dehors de ça, moi je le vois pas du tout en stature internationale convaincante.
Alors, on se devait de l'évoquer même très très courtement ici à l'antenne pour parler de tous les candidats. On l'a pas fait dans les conditions naturellement idoines, mais on pouvait pas faire autrement. On est Tony. Voilà, vous êtes toujours connecté sur Confluence avec tous les confluents du jour. On enchaîne directement avec la guillotine. À la guillotine, pas véritablement mortelle aujourd'hui, c'est une mécanique un peu différente, car celui que nous accueillons dans le box est un autre candidat. Après Issa Sall, on parle de Madi Kenyan. Sa nouvelle virginité lui a créé beaucoup de sympathie et pourtant il fut comptable, lui aussi, des années. Wad, les adieux rendent-ils donc sympathiques, mon cher Lamine Faye?
S'ils ne rendent pas sympathiques, en tout cas, la prochaine mort peut-être rend plus... on va dire, on a plus pitié de celui qui va peut-être partir à l'échafaud prochainement. Madi Kenyan, en fait, on a l'impression, effectivement, comme tu l'as dit récemment, qu'on lui pardonne tout parce qu'on n'a plus grand-chose à craindre peut-être de lui. Je ne sais plus qui disait ça. J'ai relevé ce tweet là quelque part, mais je retrouverai la source.
Arsène Wenger, quelque chose comme ça.
C'est peut-être Arsène Wenger, j'en sais rien. Mais en tout cas, on le craint plus, donc on lui pardonne tout. En tout cas, il nous fait rire parce qu'on sait que lors de l'élection à venir, ce sera une élection à 4. Ce sera pas forcément une élection à 5.
C'est vache. Fatima, ça.
Oui, absolument. Alors lui, moi, c'est. C'est un de ceux que je connais le moins bien, évidemment, parce qu'il arrive comme ça...
Ministre d'État, quand oui, même, alors, avocat.
Non, je connais son parcours diplomatique et ministériel dans les différents gouvernements, mais moi, j'ai du mal à le détacher d'Edouard et de ce qu'il a fait avant. Je veux dire, quelle est la politique autonome spécifique de Madi Kenyan? C'est une question pour un champion. Vous avez une heure pour répondre, hein, parce que moi, je n'en sais rien. Donc, voilà.
Aminata, alors Madi Kenyan.
Je le disais dans mon papier de la semaine dernière sur track.sn, trouver Madi Kenyan cool.
Alors oui, je précise d'ailleurs aux auditeurs que vous pouvez retrouver Aminata Tchor sur track.sn dans sa rubrique Aminata on control. AOC.
Yes. Merci. Et du coup, je disais qu'on l'infantilisait en fait. Et c'est nous-mêmes, nous Sénégalais, qui l'amenons hors du champ politique parce qu'il nous amuse, parce que lui aussi, ça lui plaît de jouer le clown de service. Et je trouve que c'est d'une distraction médiocre. Mais plus important, trouver Madi Kenyan cool, sympa, humain. C'est comme trouver Ousmane Tanordjian ou Mustapha Agnès court, sympa, parce qu'ils ne sont plus aux affaires. Et je trouve ça scandaleux, parce que mine de rien, cet homme, Madi Kenyan, il a été ministre plusieurs fois sous Ouad, de 2002 à 2012. Et il a occupé des postes régaliens. Donc aujourd'hui, en 2019, au lieu de demander à ce vieux qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal pendant qu'il occupait ces postes-là, on est là en train de l'écouter nous dire que Tek Natamba.
Merci.
Et il paraît qu'il fait un très bon Dieu.
Non, sérieusement. Sérieusement.
Il y a des cimetières dorés au pouvoir que la transhumance permet. Il y a aussi des cimetières dorés dans l'opposition pour certains candidats. Nous fermons ici le dernier hors-série consacré à l'élection présidentielle. Nous espérons avoir contribué à élargir les échanges entre Paris, Dakar et le monde. Nous remercions tous nos auditeurs pour leurs réactions sur nos différents supports, Facebook, Twitter, Séné+. Les derniers hors-série de Confluence reviennent au mois de mars avec de très belles surprises. Merci à l'équipe technique en studio, à Tounouf Mendy, notre rédacteur en chef et réalisation aux vidéos de Souza. À bientôt.
kiwo indila chono aduna wa useyayelaju
Confluence
avec Elgas.